de santé 88.4.
Salut à tous et bienvenue pour un nouvel enjeu de santé. Aujourd'hui, on va parler des narcotiques anonymes. En effet, je vous avais déjà parlé donc des alcooliques anonymes. Eh bien, les narcotiques anonymes furent créés en 1953 aux États-Unis. Depuis, évidemment, ça s'est répandu partout. Il y en a en France et même à Rennes. C'est pour ça que j'ai été donc en contact avec Olivier et Jonathan, deux membres des Narcotiques Anonymes à Rennes, afin d'en savoir plus sur cette association et comment se passe évidemment l'accompagnement des dépendants. Je vous laisse donc les écouter en espérant que vous en apprendrez plus.
Bonjour, je suis Olivier. Narcotique Anonyme, en fait, c'est une association d'entraide composée de dépendants qui ont arrêté de consommer et de dépendants qui sont en train d'arrêter de consommer, en tout cas qui ont le désir d'arrêter de consommer. Notre culture concernant l'aide aux dépendants, c'est vraiment un partage d'expérience sur comment on a arrêté et qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas y retourner.
J'aimerais savoir comment se passe une réunion des Narcotiques Anonymes. Vous accueillez tout le monde, c'est ouvert, comment ça se passe?
Oui, alors en fait, chaque groupe est autonome. C'est-à-dire que le format de la réunion peut être différent d'une réunion à l'autre. C'est vraiment ce truc d'autonomie est super important. Mais il y a quand même des choses qui nous rallient tous. On fonctionne avec 12 étapes et 12 traditions. Donc à partir du moment où ces 12 traditions sont respectées, le déroulement d'une réunion peut différer d'une à l'autre. Il y a des groupes ouverts, effectivement, où des dépendants peuvent venir, mais aussi des gens qui ne sont pas dépendants. Et puis il y a des groupes qui sont fermés, où il n'y a que les gens qui s'identifient comme dépendants qui peuvent participer à la réunion.
Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont ces traditions?
Alors, je ne les connais pas par cœur. En fait, les traditions étaient mises en place pour protéger l'association et essayer de faire en sorte que les groupes tiennent la route, qu'il y ait une structure, quoi. Donc, en gros, ça parle d'unité commune, de faire passer les principes au-dessus des personnalités, de protéger vraiment tout dépendant d'une exclusion ou de choses comme ça. Par exemple, la troisième tradition, c'est la seule condition pour être membre de NA est le désir d'arrêter de consommer. C'est-à-dire qu'on accepte tout dépendant, même le dépendant qui consomme encore, à partir du moment où il a le désir et qu'il formule ce désir, quoi. Moi, par rapport à mon expérience personnelle, c'est une tradition super importante qui m'a protégé, moi. Parce que Narcotique Anonyme, je crois que c'est à peu près le seul endroit dans ma vie où je ne me suis pas fait virer. J'ai mis presque 17 ans à devenir abstinent et il n'y a jamais personne qui m'a rejeté de Narcotique Anonyme parce que je rechutais. Je veux dire, après une rechute, j'ai toujours trouvé des bras ouverts pour me dire putain, on est content que tu sois là, quoi, et continue, ça va marcher. Et effectivement, un jour, ça a marché.
Et alors, comment vous aidez en fait les personnes à devenir abstinent, justement?
C'est vraiment un partage d'expérience. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 6 ans, 6 mois et quelques jours d'abstinence de tout produit modifiant le comportement, hein, puisque c'est vraiment ce qu'on suggère, nous, aux gens. C'est ce qui nous diffère un petit peu des autres thérapies qui sont en cours par rapport au problème de la toxicomanie. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment, nous, de se débarrasser même de la substitution et de tous ces produits. Et donc, c'est notre expérience personnelle qu'on peut apporter aux dépendants qui viennent demander de l'aide. C'est-à-dire que moi, je peux lui apporter ce que je mets en place pour ne pas reconsommer un jour à la fois. Et ce que je mets en place, moi, ça peut peut-être marcher pour lui. Et puis, si ce que je mets en place, moi, ça ne marche pas pour lui, ce que met en place Jonathan, par exemple, ça peut l'aider. On ne met pas forcément les mêmes choses en place. Et c'est ce qui fait la richesse de nos groupes de parole, en fait. C'est qu'on on a un programme commun avec 12 étapes, hein, où il y a un travail d'introspection et de remise en question de soi-même. Mais à côté de ça, on a chacun un petit peu nos méthodes pour pas les reconsommer. Et du coup, bah, comme on est quand même des millions, hein, dans le monde, Narcotique Anonyme, ça représente des millions de personnes aujourd'hui. Il y a des millions de rétablissements différents et donc une capacité d'adaptabilité un petit peu à chacun, quoi.
Est-ce que vous trouvez que c'est mieux qu'un sevrage qui serait donc plus médical ou autre ?
C'est complémentaire. Moi, là, je peux pas parler au nom de Narcotique Anonyme. Je peux juste parler en mon nom propre et en mon expérience. Il y a eu des moments de ma vie dans mon parcours de dépendant où j'avais même plus la capacité de choisir. Et où j'avais plus aucun sens des responsabilités et où pour me protéger de moi-même j'ai dû être interné parce que j'étais en danger de mort tous les jours et que je m'en rendais même plus compte, quoi. Et donc ces internements m'ont aidé, moi, à pas mourir, quoi, tout simplement, et à un moment donné avoir le choix de dire bon ben je suis sur une route où je suis en train d'arrêter, est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'ai plus envie ou est-ce que j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Enfin, moi personnellement, hein, je parle pas au nom de Narcotique Anonyme, mais je pense que c'est vraiment complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a les centres de cure, de sevrage, nous on fait pas ça, nous, à Narcotique Anonyme, hein. C'est vraiment, on considère qu'on a une maladie incurable et mortelle, qui est la dépendance, mais qu'à un moment donné, on peut vivre avec cette maladie sans continuer à se casser la figure. Et donc, comme on parle d'incurabilité, bah, par rapport à ça, la parade, c'est de continuer à s'occuper de soi tous les jours, quoi, et toute sa vie. Et voilà, moi, c'est pour ça que je continue à aller en réunion régulièrement, pour ne pas oublier d'où je viens, et puis continuer à pouvoir vivre sans aller consommer, quoi.
Vous parliez que vous aviez été viré de nombreuses fois. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu un déni dans la société des gens, voilà, qui ont une dépendance, qui sont, alors que justement ces gens sont demandeurs d'aide ?
Moi, je ne peux pas parler de déni, je peux parler d'ignorance. Moi, quand je suis arrivé à Narcotique Anonyme, on m'a dit « Olivier, tu as une maladie ». Et moi, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Quand je consommais, je me disais j'ai pas de volonté, je me disais je suis vicieux, j'ai une tare, enfin voilà, mais je considérais pas mon problème comme une maladie. Et effectivement, la dépendance, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre. Moi, je suis là pour le prouver aujourd'hui, hein, puisque je vis sans prendre de produits depuis quelques années et je suis pas le seul. Mais parler de déni, je pense qu'on peut plus parler d'ignorance, quoi.
Juste pour savoir, quel genre de dépendance peut accueillir donc les Narcotiques Anonymes ?
Alors nous, on parle de toute substance modifiant le comportement. Maintenant, il y a des programmes de 12 étapes pour toute forme de dépendance. Je crois qu'on a recensé 57 programmes différents. Donc ça passe par les OBA. OBA, c'est obèse et boulimique anonyme. Il y a les alcooliques anonymes, il y a les débiteurs anonymes, il y a les sexe addicts anonymes. Enfin, vraiment, c'est énorme le nombre de dépendances qui peut y avoir. Et finalement, on trouve plein de similarités entre nous tous. Je veux dire, moi ça m'est arrivé d'aller dans des groupes qui ne concernent pas forcément mes dépendances, parce qu'il n'y avait pas, dans les endroits où j'étais, de réunion Narcotique Anonyme, par exemple, et où j'ai pu m'identifier et y trouver mon compte, quoi.
Est-ce que vous pourriez me parler un peu des symptômes, en fait, d'une dépendance, tout simplement ?
Donc les symptômes au moment où on est dépendant, c'est ça, actif, j'entends bien. Bon, en fait, les symptômes, c'est... Enfin, dans mon cas, en tout cas, je vais parler vis-à-vis de moi. Bah c'est qu'en fait, au début, je consommais, mais il y avait encore un côté festif. Enfin, c'était encore rigolo, on va dire. Et puis, au bout d'un moment, je me rendais compte très rapidement que je ne pouvais plus m'en passer. Et en fait, au début, ça m'aidait à aller mieux, entre guillemets. Ça m'aidait à vivre malgré tout. Ça, c'était une sorte de béquille. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'avec ou sans, je n'arrivais pas à vivre, en fait, tout simplement, dont hospitalisation à plusieurs reprises. Et au bout d'un moment, il a fallu que je fasse un choix. Et je savais que je pouvais pas arrêter par moi-même. On m'avait parlé de Narcotique Anonyme quelques petites années auparavant. Et voilà, quoi, du fait que je pouvais pas m'empêcher d'arrêter et pas vivre avec au bout d'un moment, j'étais contraint de chercher des solutions autres, quoi.
Et donc, Jonathan, dans ton expérience, comment les Narcotiques Anonymes t'ont aidé ?
Bah, dans mon cas, en fait, j'avais la... Comment dire ? Dans mon cas, je parle personnellement, j'avais la profonde... J'avais le profond sentiment que j'étais capable d'arrêter, mais l'expérience du passé m'a montré que tout seul, je n'y arrivais pas, en fait. J'arrivais quelques semaines, quelques mois, des fois, et encore, je n'étais pas abstinent sur tout, quoi. Et je me suis rendu compte avec les groupes de parole, le fait de partager mon expérience, le fait aussi d'écouter l'expérience des autres, ça m'a permis de m'identifier, ça m'a permis de voir que... Bah déjà que finalement, comme parlait mon collègue Olivier, c'est pas une tare, c'est pas un côté vicieux, c'est pas parce que je suis malhonnête que je consomme ou quoi que ce soit, c'est une maladie. Et du fait déjà de m'identifier plus mon problème de dépendance comme une maladie et pas comme une déficience ou morale, on va dire, bah ça m'a permis de, voilà, quoi, déjà de rester clean juste pour aujourd'hui et ainsi de suite, quoi. Chaque jour rester clean et c'est aussi l'identification vis-à-vis des autres qui m'ont beaucoup aidé.
On va donc faire une petite pause musicale avec Ray Charles et on se retrouve après.
Thank you. see me in misery. Come on, baby, see about me now. Song. She can do the birdland all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. What's that? What time? Oh, oh, one more time.
Et donc voilà, c'était la petite pause musicale. On va pouvoir reprendre avec Olivier et Jonathan qui ici vont nous parler donc évidemment toujours de l'accompagnement des narcotiques anonymes pour trouver la force d'arrêter de consommer. Mais on parlera aussi un petit peu de la vision de la société face aux dépendants. Je vous laisse écouter. Olivier parlait donc que chacun en fait avait un petit peu sa technique pour rester abstinent. C'est quoi ta technique ?
Bah déjà, ma première technique, comme vous dites, c'est d'aller en réunion. Même si ça fait plusieurs 24 heures, ça va faire bientôt 22 mois que je suis abstinent, je continue à aller en réunion. Ça, c'est la base. Je dirais que ça, c'est pour, entre guillemets, rester abstinent. Puis après, il y a aussi le guide des travails des étapes où, justement, comme disait Olivier, ça permet de faire une introspective sur moi-même. Et aussi le téléphone, quoi, rester en lien avec des gens qui ont le désir d'être abstinents et qui le sont bien souvent, ou d'autres qui ne le sont pas encore. Mais enfin voilà, c'est vraiment l'entraide entre dépendants qui m'aide à rester abstinent, plus le travail personnel sur moi. Voilà.
J'aimerais savoir, donc vous faites des réunions et est-ce que donc il y a une personne qui est un peu là en tant que modérateur justement pour... essayer de faire en sorte que chacun ait la parole.
Oui, alors en fait, même si chaque groupe est autonome, dans chaque réunion, il y a un modérateur qui change à chaque réunion. Nous, ce qu'on demande pour que la personne puisse modérer, c'est qu'elle ait au moins 90 jours d'abstinence de tout produit modifiant le comportement. Et il y a un guide de modération. Et en fait, au début de la réunion, il y a tout un format cadran, en fait, où pas un rituel, mais comme une espèce de rigueur par rapport au bon déroulement de la réunion. Et en fait, on a quelques littératures qu'on lit en début de la réunion. Il y a des annonces des groupes de Narcotiques Anonymes dans son ensemble. Et puis ensuite, il y a un thème. A priori, à chaque réunion, il y a un thème pour démarrer la réunion, pour démarrer sur quelque chose. Et après, chacun partage ou pas.
J'aimerais savoir, est-ce qu'à vos réunions, il y a une diversité des personnes, je veux dire, tant jeunes que vieux ou autres. Et est-ce que vous trouvez que donc à Rennes, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont besoin donc de Narcotiques Anonymes?
Oui, alors à Rennes comme ailleurs, mais c'est vrai qu'à Rennes, il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes de défonce. Il n'y a vraiment pas de profil particulier. C'est-à-dire que moi, je vois dans la diversité des partages que je peux avoir avec les gens, il y a vraiment tous les profils sociaux possibles et imaginables. Le gros problème, si vous voulez, c'est que la maladie de la dépendance, c'est une maladie du déni, c'est une maladie de l'égocentrisme, c'est une maladie des émotions. Et souvent, avant d'ouvrir la porte de Narcotiques Anonymes, et encore, faut-il avoir eu la chance d'en avoir entendu parler, parce que c'est, je veux dire, on fait pas de publicité, enfin, on n'est pas, c'est Narcotiques Anonymes, donc forcément, on est obligé quand même de faire très très attention à l'identité des gens, et enfin, on peut pas faire n'importe quoi au niveau de la communication. D'une part, et puis d'autre part, nous on a comme politique primordiale, c'est vraiment l'attrait plutôt que la réclame. C'est-à-dire que moi je sais très bien, pour avoir un parcours de toxicomane quand même d'une trentaine d'années, que ça sert à rien d'aller voir un toxico dans la rue et lui dire ah, tu sais, tu peux t'en sortir, et ça marche pas. Et en fait, le seul truc qui marche, c'est à un moment donné, une personne a touché le fond et demande de l'aide. Et c'est à ce moment donné-là qu'il faut être présent, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on essaye d'entretenir des liens avec les centres d'addictologie, avec d'être présent sur des gros rassemblements. Là, je sais qu'on a un projet sur un gros festival qui a lieu au mois de juillet là, pour avoir une présence. C'est un festival qui dure 3 jours, enfin c'est un gros truc. On essaye vraiment d'être présent sur des événements comme ça. Sur Paris, on a des permanences dans différents centres d'addictologie. On a des réunions carrément à l'intérieur des centres d'addictologie. Ici sur Rennes, on essaye de mener une action aussi avec en partenariat. C'est pas du partenariat parce que puisqu'on est on est affilié à aucun autre organisme, mais en tout cas d'essayer d'être dans un truc de complémentarité plutôt que d'être dans un truc de concurrence, quoi. Et notre but primordial, c'est vraiment d'aider le dépendant. C'est pas la forme, c'est l'action, quoi.
Et donc vous disiez que voilà, une fois que la personne avait touché le fond, c'était à ce moment-là qu'il fallait en fait intervenir. Mais est-ce qu'il faut justement avoir touché le fond vraiment pour pouvoir être aidé? C'est vrai?
Toucher le fond, c'est un... Moi, c'est un mot, je l'ai exprimé, mais en fait, c'est un mot qui me plaît pas, parce que pour avoir touché plusieurs fonds, je sais que le fond du fond, pour moi, c'est la mort. Donc, que quand la personne est prête, et la personne est prête que quand elle demande de l'aide, qu'on peut intervenir et faire quelque chose. Et intervenir, c'est encore un grand mot. C'est-à-dire que, en fait, l'acte le plus courageux, Et le plus déterminant pour un dépendant, c'est d'ouvrir la porte, de venir s'asseoir et de venir dire « Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis dépendant » et de reconnaître sa maladie. Après, c'est un travail de continuité, de persévérance. Et moi, j'ai vu plein de gens venir et repartir. Revenir 4-5 ans plus tard. Je veux dire, la graine est semée, quoi. Bon, malheureusement... c'est quand même une maladie qui laisse beaucoup de monde sur le carreau. J'ai aussi vu beaucoup de gens venir et ne jamais revenir. Et puis, quelques années plus tard, apprendre qu'ils étaient morts. C'est une réalité. Voilà. Mais c'est vrai que toucher le fond, c'est difficile à entendre. Moi, par exemple, j'ai souvent des parents au téléphone et qui veulent absolument faire quelque chose pour leurs enfants et qui de ce fait se laissent manipuler et vivent un enfer dans leur vie et souvent moi ma réponse à ça c'est de leur dire coupez les ponts quoi. Laissez-le assumer les conséquences de ses actes et c'est très difficile à entendre parce que on voit ses proches. Moi j'ai des enfants donc j'ai l'expérience aussi de ce truc quoi, de dire mais c'est pas possible quoi, je peux pas le laisser déconner à ce point-là, il se met trop en danger et moi finalement ce qui m'a vraiment aidé c'est de ne plus avoir aucun soutien à l'extérieur. C'est le paradoxe du truc, quoi. C'est à ce moment-là que, effectivement, je me suis dit, attends, j'ai besoin d'aide, quoi. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé une relation avec mes parents qui est extraordinaire. Mais ça a été long. Ça a été super long. Mais je crois que la plus grande aide qu'il m'a apportée, c'est de ne plus m'aider, quoi.
J'aimerais savoir, en fait, quels sont un peu les symptômes que vous avez ressentis lors de votre dépendance. Enfin, je parle dans votre expérience. Comment est-ce que vous êtes vu, justement, je vais réutiliser cette expression, mais toucher le fond.
Moi, ce qui m'a aidé à toucher le fond, c'est les humiliations à répétition. C'est me mettre la tête à l'envers le soir, le matin, me réveiller, puis savoir ce que j'avais fait. Et puis baigner dans la culpabilité permanente, c'est repousser les limites à chaque fois, me dire bon ça, ok je me défonce mais ça je le ferai jamais, et puis finalement toujours aller plus loin, c'est dépouiller mes proches, c'est vendre mon corps, enfin c'est des trucs comme ça qui m'ont vraiment à un moment donné déterminé à arrêter, mais le truc c'est que je savais pas comment faire quoi. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un moment donné de ma dépendance où j'arrivais plus à vivre en consommant, mais j'arrivais pas à vivre non plus sans consommer. Donc l'issue, nous on le dit, hein, c'est la prison, l'hôpital ou la morgue. C'est pas une blague quoi, c'est une réalité. Et non, il y a quand même des solutions, mais voilà, il faut. C'est assez compliqué, mais en tout cas, on est là, les portes sont ouvertes et si quelqu'un a besoin d'aide, il peut venir en demander, quoi.
Bah, je pensais en avoir parlé un petit peu tout à l'heure, mais si vous voulez, je vais approfondir un peu le truc. Bon, en fait, c'est à peu près... Enfin, c'est pas exactement la même chose parce que chaque chemin est différent, on va dire. Mais ouais, dans mon cas, voilà quoi, fallait... disons que mon obsession première, c'était le produit. Quoi qu'il arrive, fallait que je trouve le produit, que je cherche le produit, peu importe les moyens pour l'avoir. Enfin voilà, c'est un peu... Ouais, et aussi le fait que bah, forcément, ça crée... comment dire ça, enfin voilà, niveau psychique, c'est vraiment... Enfin, c'était vraiment l'enfer, quoi, à ce niveau-là, quoi. Ça finissait par de l'insomnie, ça finissait par de l'angoisse, ça finissait par de l'anxiété. Je faisais des breaks, au bout d'un moment, je reprenais, et finalement, c'était encore pire. Enfin, il y a un moment où, voilà, où je me suis retrouvé, où j'avais l'impression, en tout cas, qu'il n'y avait plus d'issue. Et c'est une fois, je dirais à genoux, une fois où je me suis dit, de toute façon... C'est soit ça ou soit rien. Dans ma tête, à part Narcotique Anonyme que je connaissais pas, enfin deux noms mais que j'avais pas encore été, c'était soit voilà quoi, c'était soit je mourais quoi tout simplement, ou soit je prenais les choses même si, en main, même si ça prenait du temps et voilà quoi.
Oui, en fait, je voulais juste rajouter quelque chose d'important, c'est qu'on a trois réunions sur Rennes. Il y en a une le lundi soir qui se trouve au 24 rue de la Bourdonnais, donc c'est en dessous de la dalle Kennedy, à 19h30. Il y en a une le mercredi soir qui se trouve 22 boulevard de la Liberté, donc à 19h30 aussi. Et il y en a une le vendredi soir qui a lieu à 20h30 au 2 square de la Rance. Et ces trois réunions sont ouvertes, donc vous êtes les bienvenus.
Eh bien voilà, un jeu de santé, c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura renseigné sur les narcotiques anonymes. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur leur site www.narcotiquesanonymes.org afin d'en savoir plus et peut-être, voilà, si vous avez envie de voir ce que c'est, tout simplement d'y aller. N'hésitez pas, donc il y a plusieurs réunions à vous informer. Eh bien, bonne journée.